nous sommes toujours en compagnie d'Irina Brouck en duplex depuis le Festival d'Avignon. Alors pour une transition progressive, Irina Brouck, on va parler de Shakespeare que vous mettez en scène dans le Festival Off. Il s'agit de sa pièce en cinq actes, Tempête. Shakespeare qui faisait beaucoup référence à la terre et à la nature. Et d'où la transition en douceur.
Oui, mais on revient à la terre, la nature et aussi le sacré, le mystique évidemment avec Shakespeare. Parce que Shakespeare avait cette capacité de parler à tous les niveaux dans une même pièce. C'est ce qui le rend unique, je pense. Donc d'une scène à une autre, on passe de scènes qu'on appelle de clowns, c'est-à-dire vraiment les scènes de clownerie, de blagues, vraiment vulgaires et comiques, à des textes et des scènes qui sont quasiment ésotériques, avec des textes de poésie sublime, mais aussi vraiment de profondeur intense. Donc Tempête est absolument une de ces pièces, car il y a des clowns ridicules, ivrognes, monstrueux, et puis à Prospero qui est quasiment un mystique à la fin de la pièce. Et en plus, le thème de la pièce, c'est la compassion et le pardon qui vient après la vengeance.
Voilà, dans Tempête, il est question d'une île sauvage remplie d'esprits surnaturels. Vous parliez tout à l'heure de spiritualité. Il y est question des océans et de la tempête. Et c'est dans cette nature qu'évolue le duc de Milan Prospero, sa fille Miranda, Ferdinand. Autant dire que vous avez assaisonné le tout à votre sauce, sauce piquante en l'occurrence.
Il était une fois, dans le royaume de Naples, une fameuse pizzeria tenue par le grand maestro Prospero. Mais comme il consacrait beaucoup de temps à ses études ésotériques, il laissait le soin de la gérance à son meilleur ami, son frère de sang, Alonso.
Je vois un bateau.
Mon ami, la bonne fortune a porté mon ennemi mortel, Alonso, et son fils Ferdinand. La vengeance est à moi.
Voilà, extrait de votre adaptation de Tempête. Irina Brouck, pardon, la distance et votre liaison en duplex fait que vous ne pouviez pas savoir que j'allais en faire entendre un extrait. Irina Brouck, Shakespeare, auteur qui se prête très bien à des interprétations contemporaines.
Oui, c'est là la merveille aussi de Shakespeare, c'est que on peut absolument tout faire avec une pièce de Shakespeare. C'est d'une ouverture infinie. C'est-à-dire que chaque metteur en scène, chaque pays peut interpréter, comme vous dites, à sa sauce, les pièces de Shakespeare sans qu'aucun ne soit pareil. Tout est possible, tout est imaginable et tout peut faire sens. Parce que c'est les thèmes et le langage qui reste d'une telle force qu'il permet tous les traitements, on peut le tirer dans tous les sens et garder quelque chose à chaque fois qui est vrai.
Une pièce en cinq actes que vous montez sur 1h10. Shakespeare, un auteur que vous avez dû découvrir jeune, si vous suiviez le travail de votre père, Peter Brook, qui a beaucoup dirigé et encadré ces pièces.
Oui, j'ai grandi dans le bain de Shakespeare. En fait, je pensais pendant longtemps que ma première grande influence était... Le songe d'une nuit d'été, parce que petite, c'était la grosse production que mon père avait montée dans les années 70. Et j'en étais tellement obsédée que je suis allée tous les soirs. Je pense que j'ai dû le voir 70 fois.
Donc, ah oui.
Quand je suis revenue à la pièce toutes ces années plus tard, je me rendais compte que je connaissais des passages, des pages et des pages entiers par cœur qui étaient restés quelque part dans mon subconscient. Et c'est vraiment une des premières pièces de mon enfance. Donc j'ai ce langage absolument dans la tête et dans le cœur. Mais j'avais oublié que même avant le songe, une des premières pièces que j'avais vues, c'était Tempête, effectivement. Et voilà, c'est les deux pièces qui m'ont rappelé à eux plus tard comme metteur en scène.
Quand vous avez invité les lycéens de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je crois il y a 2 ans, à s'emparer des pièces de Shakespeare, vous qui êtes toujours à la recherche de nouveaux publics et cette volonté toujours d'être au contact des jeunes, ça a donné quoi? Qu'est-ce qu'ils en ont fait?
Alors, oui, on a un festival déjà, il y a le festival Shake Nice que j'ai réussi à inventer pour le Théâtre National de Nice chaque année. Et à l'intérieur du festival Shake Nice, où on montre des pièces de Shakespeare, il y a quelque chose qui s'appelle le freestyle. Et freestyle, c'est on donne l'opportunité aux jeunes collégiens lycéens de monter leur propre version d'une pièce de Shakespeare de leur choix en moins d'une demi-heure. Et donc on a deux vastes journées marathon où le théâtre devient vraiment un globe shakespearien avec un public vraiment enfin pour une fois le plus divers possible. Et les jeunes, donc, chacun monte avec leur professeur un bout de Shakespeare, une pièce, une version courte ou une scène. Et chaque version, évidemment, est originale, différente et personnelle à la classe qui l'a montée. Et c'est quelque chose de très, très touchant, vraiment émouvant, parce qu'on voit vraiment les familles qui ne viendraient jamais au théâtre autrement, qui découvrent leur enfant, qui parle Shakespeare, et certains même le font en anglais. Et c'est un grand, grand moment de l'année, plein d'émotions.
L'autre pièce que vous donnez à voir en ce moment à Avignon, donc la pièce point d'interrogation dont on parlait tout à l'heure sur les grandes questions sur notre monde futur, elle va tourner dans les écoles. Faut-il que le dispositif soit léger d'ailleurs pour se lancer dans pareille entreprise? Le théâtre, c'est une manière d'apprendre sans que ce soit scolaire?
En fait, point d'interrogation et Shakespeare tournent les deux dans les écoles. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire que pour moi, ça ne dénature rien. J'aime beaucoup avoir des productions comme La Tempête, qui peuvent se jouer dans un grand théâtre avec des belles lumières et des éléments de beaux décors, etc. Et qu'on peut aussi juste mettre dans une malle et quelques valises, et une fourgonnette, les éléments essentiels et partir dans une cantine ou salle de classe et jouer exactement le même spectacle. Je change rien du tout. Il n'y a pas une version longue et une version courte pour les scolaires. C'est la même pièce, sauf qu'on le fait avec rien. Et ça, pour moi, c'est très important. Et on le fait avec les deux points d'interrogation. On a même une version, la vraie version est à 4 dans les salles, mais elle peut se jouer à 2. Et elle peut se jouer dans toutes les formes. Et pour moi, c'est très important de pouvoir amener du théâtre chez les scolaires pour qu'ils puissent vraiment l'avoir de tout près et le découvrir comme ça chez eux.
Voilà, vous êtes ce qu'on peut appeler une metteur en scène militante. Vous l'avez d'ailleurs longtemps ignoré vous-même, vous le dites souvent. Tous vos spectacles prônent ou rêvent d'un monde meilleur. En 2016, vous mettiez en scène Terre Noire de Stefano Massini, qui racontait, dénonçait l'appropriation des terres par des firmes mal intentionnées en Afrique du Sud. En 2016, vous mettiez en scène également Lampedusa Beach de la Sicilienne Lina Prosa, donc évidemment sur la question des migrants. Est-ce que vous vous êtes toujours senti engagé, ou est-ce que lorsqu'on se lance dans une carrière artistique de théâtre, on n'a pas le temps d'y penser et on se dit que finalement le théâtre en soi est un engagement et une manière de prendre part à la chose publique sans forcément réfléchir aux sujets de société qui peuvent vous intéresser?
Je pense que c'est les deux choses. Avant d'être au Théâtre National de Nice, pour moi l'acte militant était purement de faire du théâtre et de le faire avec une certaine éthique de travail, pour moi, de rassembler des personnes dans une troupe, de travailler ensemble, d'essayer de trouver une façon d'être ensemble qui puisse être peut-être un tout petit peu mieux dans la salle de répétition et sur le plateau,
mais sans se couper
la façon qu'on serait dans la rue.
Mais sans se couper du vrai monde, alors. C'est ça la difficulté.
Non, du monde de dehors. Moi, c'est pas du tout couper du vrai monde, c'est le contraire. C'est de pouvoir prendre tout ce qu'on a, mais de pouvoir le retransmettre et le revivre d'une façon différente, parce qu'on est très privilégié de pouvoir passer des journées ensemble dans des salles de répétition, de jouer avec des textes. C'est quand même un des plus grands privilèges au monde comparé à beaucoup d'autres métiers. C'est une chance inouïe d'avoir ce travail. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que ce plaisir qu'on prend et cette chance qu'on a se transmettent au public. Et là, pour moi, c'est déjà un acte militant, parce que je trouve que, comme dirait peut-être Pierre Rabhi, on est tellement peu liés aujourd'hui les uns aux autres Il y a une telle disparition du sens de ce que c'est d'être humain, de notre humanité commune, que le théâtre est vraiment une des dernières formes qui remet cette chose en place. Donc pour moi, le plus important, après que ce soit en rajoutant des textes forts comme Terre Noire, évidemment, c'est plus évidemment militant, mais pour moi, l'acte, c'est de rassembler les acteurs et de vivre quelque chose qui transmet une humanité ou un peu d'humanité au public, et qu'on partage un moment qui nous amène une petite nourriture de plus dans cette heure ou ces deux heures partagées ensemble.
Donc c'est votre manière à vous d'être colibri. C'est votre part de colibri, comme dirait Pierre Rabhi.
Je pense, oui, c'est la toute petite goutte que j'essaye d'amener, mais c'est pour ça que je le fais. Je pense que si j'avais l'impression que c'était totalement inutile, je m'arrêterais tout de suite.
Irina Brooke, vous avez co-signé récemment une lettre ouverte de Robin Renucci à la ministre de la Culture contre le délit de solidarité. La question de l'accueil des migrants à Nice est un sujet que vous connaissez de près. Vous n'êtes pas loin de Menton et de la vallée de la Roya. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Depuis quand ?
Depuis très longtemps, depuis qu'on voit des documentaires sur les passeurs, etc., c'est quelque chose de vraiment, vraiment émotionnellement choquant et difficile. Et c'est très difficile de ne pouvoir rien faire, parce que je ne suis pas dans une position où je peux agir. Et ça, c'est vous soulevez une question qui est très compliquée, parce que je ne sais pas quoi faire. Et oui, en racontant des histoires comme Lampedusa Beach, ça, je pense que c'était un des seuls moments où j'ai senti que c'était une petite contribution. Mais c'est vrai que franchement, on se sent vraiment très très, si on fait pas quelque chose d'activement vraiment physiquement utile et présent pour aider des personnes qui sont en voyage et en détresse, etc., on se sent franchement assez coupable. Donc je suis plutôt de ces gens-là.
De quelle façon ce texte de Lina Prosa, Lampedusa Beach, rendait compte de ce sujet, et quel accueil a-t-il reçu auprès de ces publics et nouveaux publics que vous êtes si heureuse d'avoir pu attirer ?
Pour moi, ce qui était intéressant dans le texte, c'est que, elle l'a dit elle-même, c'est comme une forme de tragédie grecque. Et le texte est très poétique. Ouh, c'est bruyant.
Oui, il y a du bruit à Avignon. Ça y est, la ville s'éveille.
On a tous les poubelles, les motos. C'est très tragique et poétique. Et le personnage est une jeune fille qui est en train de se noyer pendant qu'elle parle. Et ce que je trouvais très étrange, c'est que Lina Prosa l'a écrit pour une actrice blanche. Je trouvais ça un peu curieux, et je l'avais vu avec des actrices blanches. Et je l'ai monté moi-même, donc, dans cette tradition un peu étrange, avec Romane Boringer. Et après, je me suis rendu compte que c'est très intéressant et très malin, parce que ça donne une sorte de distanciation de l'horreur qui fait que les gens peuvent beaucoup mieux l'accepter et l'entendre. Et donc Romane a fait on l'a pas beaucoup joué, malheureusement. C'est quelque chose qui aurait pu jouer 500 fois et vraiment vraiment être un spectacle très fort et vraiment très utile, mais pour des raisons de calendrier on a fait quelques représentations au théâtre et c'est quasiment tout. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que le public qui vient voir Romane jamais ne viendrait voir ce texte s'il était monté de façon militante avec une actrice d'origine africaine, par exemple.
Pourquoi ? De quel public, en l'occurrence, parlez-vous ?
C'est un public de CDN, de Nice, qui vient surtout... Parce que les gens ont peur, les gens n'ont pas... Quand il y a un texte qui est trop dur et trop politique... ça empêche les gens de venir, c'est ça le problème. Donc le but, que certains textes soient entendus par tous et pas seulement par les déjà conquis, est un peu raté. si on a que le public qui est déjà dans cette mouvance. Donc avec Roman, ce qui était intéressant, c'est que vraiment des personnes venaient pour voir Roman Boringer, pour écouter ce texte lu par elle. Et je sentais vraiment que ça pouvait être des personnes qui, normalement, ne seraient pas touchées par cette histoire et qui sortaient vraiment interdits. Ils ne pouvaient plus parler, ils étaient tellement émus. Et oui, il y avait une sorte de distanciation brechtienne qui rendait beaucoup plus facile l'entente. C'était très intéressant.
Dans cette lettre ouverte au ministère de la Culture que je citais tout à l'heure, vous soulignez tous les signataires l'urgence d'ouvrir le dialogue entre les artistes et le ministère de l'Intérieur. C'est vrai que c'est un dialogue qui ne paraît pas évident au premier abord. Pour lui dire quoi ? Et de quelle façon ? Comment les artistes peuvent convaincre, je ne sais pas, ou rendre compte d'eux différemment, et en quoi ce serait à votre avis, intéressant, utile que les artistes viennent voir le ministère de l'Intérieur ou Gérard Collomb directement?
Je pense qu'aujourd'hui, les artistes ont cette possibilité et voie unique d'être des personnes qui peuvent représenter la voix de l'humanité, mais en même temps d'une façon qui est attirante, parce que c'est des acteurs, des metteurs en scène, des artistes, des personnes, que des chanteurs qui intéressent le public. Et je pense que toutes ces questions sont tellement énormes qu'ils ont besoin de passer d'une façon au-delà de l'intellect, par le cœur. Et je pense que c'est là, en tant qu'artiste, où... Il faut vraiment passer par le cœur, c'est-à-dire nous pouvons parler vraiment d'humanité, de cœur, d'être un être humain face à un autre, d'une façon plus libre et différente que tous les autres métiers. On a une grande chance là-dessus, on est un peu en dehors comme artiste.
Alors avant que vous nous rejoigniez tout à l'heure, pardon, avec Pierre Rabhi, on parlait avec lui de la question de l'engagement et des moyens d'action, et lui, Pierre Rabhi, mise beaucoup sur l'individu agissant et responsable, il mise sur une prise de conscience individuelle. Comment vous appréhendez les moyens d'action? Est-ce qu'on doit être dans quelque chose de évidemment beaucoup plus collectif, mais où le politique doit être également actif? Voilà, comment vous vous positionnez par rapport à cette question de l'échelle de l'engagement?
Je pense qu'il n'y a pas de généralisation possible. Je crois que chacun qui s'intéresse à ces questions doit agir selon sa personnalité et ses possibilités. Pour moi, c'est tout aussi important de faire quelque chose sur une toute petite échelle, de vivre d'une façon différente, même si c'est deux personnes ou même une personne seule, ermite dans la forêt, dans une cabane, qui vit de façon exemplaire et intéressante. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'exemples. Et je crois que ça peut aller vraiment de cette personne seule dans la forêt jusqu'à des énormes mouvements de rassemblement, ou les mouvements qui se passent même à travers l'Internet, de signatures pour et contre des choses qui se passent. Je crois qu'à tous les niveaux, l'action est nécessaire, et à chacun de voir quelle est sa fameuse goutte et quelle est la chose la plus utile à faire. Donc que ce soit en racontant des histoires, par le théâtre, par les arts, par de l'action vraiment directe et militante, par la poésie, par juste vivre une vie qui donne envie aux autres de vivre d'une certaine manière. Je pense que tous les moyens sont bons, mais je crois qu'il faut faire des choses, parce que là, ça devient trop grave pour ne rien faire du tout et ignorer ce qui se passe autour de nous.
Voilà, et on sent combien vous estimez en tant qu'aussi présidente du Théâtre National de Nice, directrice, pardon, avoir ce rôle et presque ce devoir à jouer. C'est votre petite goutte d'eau à vous. Merci beaucoup Irina Brook d'avoir été avec nous ce matin sur France Culture. Donc vos deux pièces, La Tempête et Point d'interrogation, sont en ce moment en représentation dans le Off d'Avignon. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci du studio de Radio France à Avignon. Et puis je profite du chant des cigales que vous nous avez permis d'entendre pour dire que France Culture est présente aussi au Festival d'Avignon avec chaque jour en direct et en public la grande table de Maïlys Bessery dans la cour de l'université Pasteur. Et il sera justement question aujourd'hui de dystopie écologique avec Anne-Cécile Vandalem qui monte la pièce Arctique, qui la met en scène. Et en deuxième partie, un portrait du comédien Maxime Tafanel, donc à 12h30. Et puis le soir, à 20h, les fictions en direct dans la cour du musée Calvet. Ce soir, ce sera Ombre, Eurydice parle, d'Elfriede Jelinek.